Ce matin, nous continuons dans notre étude de la première épître de Jean. Nous arrivons donc, nous sommes dans le chapitre 3 et nous allons donc terminer ce chapitre avec en partant du verset 17 jusqu'à la fin au verset 24. Je lis le dernier verset que Yann a étudié donc il y a 15 jours et qui nous disait « Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. » Donc ça, c'était le passage qui a clôturé la précédente étude. Et donc je commence avec ce verset 17 qui nous dit « Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que votre amour, que notre amour, ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. C'est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu. Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre. Car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne tout ce que nous lui demandons, parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que nous commande-t-il ? De placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme il nous a lui-même et comme il nous l'a lui-même prescrit. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous ? À l'Esprit qu'il nous a donné. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous et ce texte donc nous disait de que nous aussi nous devions donner notre vie pour nos frères. Donner sa vie, c'est quelque chose qui est pas forcément évident à faire, à comprendre, à réaliser. Et ce texte, je pense, nous aide à comprendre de quoi il est question concrètement. Ce texte nous explique un petit peu, ce que c'est que d'aimer. Évidemment, il y a d'autres textes qui en parlent, mais celui-ci met en avant un certain nombre de vérités, de réalités. Donc il commence en nous parlant de cet homme riche, qui voit un frère dans le besoin et qui lui ouvre son cœur. Cet homme riche. La première chose, c'est que pour que ce texte nous parle, d'abord il faut arriver à se demander si c'est nous cet homme riche. La richesse, c'est pas forcément facile à définir. C'est quelque chose qui fluctue entre les époques, qui fluctue entre les lieux. Il y a une vingtaine d'années avec Sandrine, on a passé une année au Bénin dans le cadre d'une mission. Personnellement, j'ai pas eu trop de mal à m'adapter à la vie sur place. Pour Sandrine, ça a été un peu plus compliqué, mais en arrivant, on se rend compte qu'il y a une différence de niveau de vie qui est énorme, en fait. Hein, alors, l'ordre de grandeur, c'est de 1 pour 20, à peu près. Donc, le salaire journalier, c'est en gros 3 euros, à peu près. Et ça n'a pas tellement changé hein, depuis 20 ans. Par contre, moi, là où j'ai eu du mal, c'est quand je suis revenu. Pour me réadapter finalement à la vie ici, parce que cette année passée au milieu de gens qui avaient tellement moins que moi, Ça avait changé ma façon de regarder ce que c'était que la richesse, ce que c'était qu'un confort normal. Et quand je suis revenu ici, ça me paraissait tellement, notre vie me paraissait tellement, je vais le dire comme ça, mais tellement futile, tellement pleine de choses qui n'étaient pas nécessaires. Cette course perpétuelle vers le confort, toutes les choses qu'on amassait, dont on s'entourait, et ça me paraissait... ça a été compliqué pour moi d'arriver à retrouver ma place dans notre société. Et donc je me suis rendu compte que j'étais riche. Et à ce niveau-là, nous tous ici, nous le sommes. Mais notre société, crée en nous un besoin insatiable de choses, de services, de tout ce que vous pouvez imaginer. Une des choses que j'ai constatées au fil de mon existence, c'est que plus je gagnais d'argent et plus j'en dépensais. Je ne sais pas si vous avez vécu la même expérience, mais grosso modo, quels que soient mes revenus, finalement, au bout du compte, à la fin du mois, j'avais tout dépensé. Et ce texte, nous invite à d'une part, peut-être d'abord reconnaître ça, reconnaître que oui, nous sommes riches, que nous avons beaucoup de ressources. Et là, j'ai parlé des richesses matérielles, mais on peut aller un petit peu plus loin et se demander aussi quelles sont nos richesses immatérielles, nos richesses de connaissances, nos richesses relationnelles, notre richesse familiale, tout l'amour que nous avons reçu, que nous recevons, que nous partageons, toutes ces richesses que nous avons. Et ce texte nous dit d'ouvrir notre cœur. On le sait, le don donné, c'est pas quelque chose qui est facile. Ça implique plein de choses. C'est compliqué de donner de la bonne façon, de pas, par exemple, prendre le pouvoir sur celui à qui on donne. Et ça vient, c'est quelque chose qui vient facilement, je pense. C'est difficile parce que par exemple, quand on a une famille, on sait que si on donne une partie de ses ressources à quelqu'un d'autre, ces ressources-là, elles seront enlevées pas seulement à nous, mais aussi à ceux qui dépendent de nous. Et donc il faut faire ce choix-là. Malgré toutes les raisons qu'on peut placer entre nous et le don, ce texte nous invite à ouvrir notre cœur. Et ouvrir son cœur, c'est peut-être déjà reconnaître en l'autre son prochain. Évidemment, le texte la parabole du Samaritain nous vient à l'esprit de cet homme qui a été capable de s'arrêter, capable de regarder, capable de voir... De voir dans celui qui était allongé par terre, son semblable, celui vers qui Dieu l'envoyait. Cette démarche-là, c'est vrai, elle pose une limite. Elle pose une limite à nos besoins. Elle nous permet de prendre conscience que nous ne sommes pas la fin de toute chose, que Dieu nous demande de regarder à ceux qui sont autour de nous et de les considérer et de les aimer comme nous-mêmes. C'est là-dessus que ce passage va se terminer. L'avertissement contenu dans ce premier verset nous dit que celui qui n'est pas capable d'ouvrir son cœur, l'amour de Dieu ne peut être en lui. Et on peut le comprendre de deux façons différentes. Cette absence de l'amour de Dieu, On peut le comprendre en se disant que d'abord, si nous ne sommes pas capables d'aimer celui qui est devant nous, eh bien, comment serions-nous capables d'aimer Dieu ? Que notre amour pour Dieu est finalement quelque chose qui n'a pas de, qui n'a pas de réalité, de réalité concrète. On peut le comprendre aussi, cet amour de Dieu, eh bien, c'est que l'amour que Dieu a pour nous, eh bien, lui aussi perd de son, perd de sa réalité. Si nous ne sommes pas en mesure d'ouvrir notre cœur, comment est-ce que nous pourrions recevoir l'amour que Dieu veut nous donner ? Si je ne suis pas capable de regarder celui qui est devant moi et de reconnaître son, son besoin et de le prendre en compte et de donner de la même façon que Dieu m'a donné, eh bien cette chaîne, ce flot d'amour qui commence par l'amour de Dieu, eh bien, si je bouche le tuyau, eh bien, le flot s'arrête. Le flot s'arrête. Et nous savons bien que nous sommes des témoins, nous sommes des passerelles, nous sommes ceux à travers lesquels, eh bien, Dieu veut communiquer son amour au monde. Et en étant ces communicants de l'amour de Dieu, eh bien, nous en sommes les premiers bénéficiaires. Et ce passage nous dit que votre amour ne se limite pas à des belles paroles, mais à des actes accomplis dans la vérité. Des actes. Nous voyons bien que ce premier verset nous place face à notre propre responsabilité. On peut le recevoir comme une culpabilisation. Et c'est vrai que personnellement, en lisant ce texte, ce verset m'interpelle, m'oblige à revenir sur mes choix et sur ma façon de vivre et remet en cause tout cela. Malgré tout, je pense pas que le but de Jean soit de nous culpabiliser. Dans la culpabilisation, on accuse souvent, hein, bien sûr, l'Église de culpabiliser les gens et de tenir les fidèles par cette culpabilité. Mais en fait, je pense pas qu'il s'agisse de ça, parce que dans la culpabilisation, il y a la notion de coupable, la notion de condamné. Or, nous ne sommes pas condamnés. Ce texte ne nous condamne pas. Ce texte nous invite à marcher. Et c'est vrai que ce verset crée une tension. Une tension en nous, elle, on ne peut pas être tranquille en lisant ce texte. On ne peut pas se dire, moi, pour moi, c'est bon, je pense que je donne ce que j'ai à donner, mon cœur est suffisamment ouvert. Non, forcément, on doit se demander, est-ce que j'ai ouvert mon cœur de la façon que Dieu voulait que je le fasse. Il y a forcément une tension qui se crée. Et cette tension, je pense, elle est bonne. La paix de Dieu, c'est pas un état où il n'y a plus de doute, où il n'y a plus de questions. La paix de Dieu, c'est une relation de proximité avec Dieu, mais une relation, comme l'a dit Paul tout à l'heure, un chemin. On peut pas s'allonger dans un chemin. Dans un chemin, on est là pour marcher. Eh bien, c'est cette même notion qui est à l'œuvre ici. Le Seigneur nous invite à marcher et à réfléchir et à poser des questions et à chercher quelle est sa volonté. Des actes accomplis dans la vérité. Des actes. Il s'agit là de mettre en œuvre, de traduire dans la réalité un choix que le Seigneur nous invite à faire. Ce choix de la foi, ce choix où il nous dit que nous devons, que le commandement de Dieu, hein, n'est-ce pas, c'est de placer d'abord notre confiance en Jésus-Christ. Eh bien, les actes, c'est la mise en œuvre de cette confiance. Évidemment, Jean écrit ce texte dans le contexte, on en a parlé à multiples reprises, hein, d'un combat contre les gnostiques qui considère que la seule chose importante, c'est ce qui se passe au niveau de l'intellect ou de l'esprit, et que la matière, la chair n'a pas d'importance. Et donc, il est en train de dire, non, mais vous ne pouvez pas vous considérer que simplement l'idée de donner est suffisante. Il faut que l'acte concret soit là. Alors évidemment, pour nous, la pensée gnostique n'est peut-être pas aussi présente. Par contre, si on ne parle pas forcément de mysticisme, on peut parler de virtualité. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à avoir un compte Facebook, combien vous avez d'amis sur ce compte Facebook, et parmi ces amis, combien seront là si vous avez besoin de déménager. Nous sommes rentrés dans un monde de virtualité où la réalité de l'amitié est une vraie question. Et ce texte nous rappelle que l'amour est un amour qui se manifeste dans les actes concrets. Des actes accomplis dans la vérité. Alors, au premier abord, ce n'est pas forcément évident de comprendre de quoi est-ce que Jean est en train de parler quand il nous parle d'actes accomplis dans la vérité. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là-dedans? Et quand on lit ce mot dans la Bible, je pense que c'est important de se rappeler qu'il a un sens, une interprétation particulière. C'est que dans la Bible, le mot vérité fait souvent référence à l'idée de révélation. Est vrai ce que Dieu nous dit. Des actes accomplis dans la vérité, c'est des actes accomplis dans ce que Dieu nous dit, de ce qu'il est, de ce qu'il fait et de ce que nous sommes. Et la façon dont je comprends ça, c'est que ces actes accomplis dans la vérité, cette vérité, cette première étape de révélation, c'est que si j'agis en ayant conscience de ma propre insuffisance. La révélation de Dieu, c'est d'abord de nous dire « Tu n'es pas suffisant. Tu n'as pas les capacités d'accomplir pleinement ma volonté. » Et c'est peut-être ça, cette condamnation du cœur dont nous parle ce passage. Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, nous le rassurerons devant Dieu. Un des rares films qui m'a fait pleurer, c'est un film que vous connaissez peut-être, qui s'appelle La liste de Schindler. Dans ce film, on voit un homme qui, donc un bourgeois allemand à l'époque donc du début du Troisième Reich. Donc ce bourgeois allemand, plus ou moins un peu escroc, qui se rend compte que bien la guerre est une occasion de s'enrichir et qui donc va commencer à faire des affaires avec les nazis, qui va monter une affaire qui utilise les personnes envoyées dans les camps. Et cet homme, donc on voit le film montre son évolution, et petit à petit, cet homme se rend compte que ceux qui sont dans les camps sont tués. Hein, donc en l'occurrence, là, il va s'agir de juifs. Et donc il se rend compte que ceux qui viennent dans son usine pour travailler, ceux-là sont préservés. Et petit à petit, donc il va prendre conscience de ça et il va demander de plus en plus de monde pour venir travailler. Et il va demander même des vieux, des enfants, des personnes qui a priori n'ont pas vraiment leur place dans une usine, mais il va les inscrire sur sa liste, d'où le titre du film. Et donc il va payer pour ça. Il va donner de l'argent aux responsables des camps pour que plus en plus de personnes soient inscrites sur sa liste. Et comme ça, des milliers de personnes vont être sauvées de la mort. Et le film se termine avec un passage où donc les camps vont être libérés par les Alors, je ne sais plus si c'est les Russes ou les Américains qui vont arriver. Et donc, Schindler doit partir parce qu'il est inscrit sur la liste des collaborateurs du régime. Et donc, il doit s'enfuir. Et au moment où il s'enfuit, donc, il regarde autour de lui et il voit toutes les personnes qui sont là, qui ont été sauvées. Et il commence à regarder les objets qui sont autour de lui. Et il dit, mais tu vois, cette voiture, j'aurais pu la leur donner. Il m'aurait donné d'autres personnes. Il regarde ses bijoux et ce genre de choses. Et il se dit, voilà, toute la valeur que j'avais mise dans ces choses, donc finalement au début du film, où on voit voilà, un homme qui aime faire la fête et qui aime profiter de la vie et des richesses. Et il se rend compte que tout toutes ces richesses, toute la valeur qu'il avait mise là-dedans, finalement, tout ça aurait pu être utilisé pour quelque chose qui avait finalement beaucoup plus de valeur. Il aurait pu les utiliser pour sauver des vies. Et je pense que c'est quelque chose qui risque de nous arriver aussi. Parce que nous vivons dans un monde qui place de la valeur dans des choses qui n'en ont pas réellement. Et à un moment donné, nous verrons ce qui a réellement de la valeur. Et peut-être que, et c'est déjà parfois ce que nous vivons, et c'est peut-être là que notre cœur nous condamne, quand nous constatons notre propre insuffisance, notre propre inconséquence, les choix que nous avons faits l'énergie que nous avons placée dans certaines choses qui finalement n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu, les choses que nous avons gardées, que nous aurions pu donner. Toutes ces choses-là, nous voyons bien que nous sommes limités. Et quand nous prenons conscience de ça, eh bien, je pense que oui, notre cœur nous condamne. Et pourtant, ce texte nous dit, si nous sommes dans cet état-là, où nous constatons notre petitesse, notre insuffisance face aux enjeux, eh bien, notre cœur est rassuré. Et pourquoi est-ce qu'il est rassuré? Parce que nous accomplissons des actes dans la vérité. Et cette vérité, c'est que si nous sommes insuffisants, le Christ, lui, est suffisant. Et je pense que voilà la vérité. Nous choisissons de mettre en œuvre notre foi. Nous choisissons de le faire en ayant conscience que nous sommes insuffisants. Mais parce que nous marchons sur ce chemin-là, eh bien, la toute suffisance de Christ nous couvre. Et ce texte nous parle de l'assurance que nous avons devant Dieu, parce que notre cœur ne nous condamne plus. Si notre cœur ne nous condamne plus, c'est bien parce que l'amour de Christ, lui, a été suffisant. Et que Dieu, lui, connaît. Et que lui, il sait la valeur de cet amour-là. Et nous sommes pleins d'assurance devant Dieu, nous dit ce texte. Pleins d'assurance. Et nous pouvons nous présenter devant Dieu et lui demander toutes choses et le Seigneur nous les donne. Pour arriver à comprendre évidemment ce passage où on a la promesse que Dieu va nous donner ce que nous demandons, évidemment nous comprenons bien que cette promesse, elle est liée au fait que nous demandons selon sa volonté. N'est-ce pas? On comprend bien que cette promesse, elle est liée au fait que l'intimité que nous avons avec Dieu fait que ce que nous désirons, eh bien, c'est ce que Dieu désire. Et dans cette proximité, cette intimité, eh bien, nos prières sont celles que Dieu veut exaucer. Évidemment, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à comprendre quelle est la volonté de Dieu dans, dans les circonstances qui sont les nôtres. Et souvent, nous sommes dans l'incertitude. Et souvent, ce que nous avons envie de demander, eh bien, nous savons que c'est pas forcément ça que Dieu veut. On a étudié il y a 15 jours cette histoire de Caïn et Abel. Et donc Yann nous a parlé de puisque le texte nous incitait à ne pas marcher sur dans l'exemple de Caïn. Donc Yann nous a parlé de ce que c'était que cette marche de Caïn finalement. Et on n'a pas regardé à ce moment-là la façon dont Dieu a agi dans cette histoire terrible de Caïn et Abel. Et je pense que cette histoire nous éclaire sur ce que Dieu, là où Dieu met de la valeur et de l'importance. Dieu n'a pas protégé Abel. Il aurait pu empêcher que Abel soit tué par son frère. Il n'a pas protégé le juste. Il n'a pas protégé Caïn non plus. Il aurait pu empêcher que Caïn devienne un meurtrier. Il aurait pu retenir son bras. Il a parlé à Caïn. Il l'a encouragé, exhorté à choisir un autre chemin. Mais il ne l'a pas empêché de prendre le chemin qu'il a choisi. Quand nous prions souvent pour la vie, pour que Dieu garde notre vie. Cette histoire nous montre que la priorité de Dieu, c'était pas de garder la vie, ni de Abel, ni de Caïn. La vie de plutôt la mort de Abel est une préfiguration de la mort de Christ. C'est une histoire qui a touché des millions, des milliards de personnes. Le juste Abel, tué par son frère, et Caïn qui était à même de choisir le bon chemin et qui a choisi le mauvais. Dieu a placé plus haut que la vie le choix, la liberté de Caïn de prendre le bon ou le mauvais chemin. Et quand nous demandons à Dieu, eh bien nous demandons à ce Dieu-là qui a mis en avant des choses que moi-même, quand j'ai parlé de cette histoire à mes enfants, je leur ai dit que si ça avait été moi pour eux, eh bien j'aurais essayé d'abord de les protéger de cette tragédie. Mais c'est pas le choix que Dieu a fait, et c'est vers ce Dieu-là que nous tournons. Donc bien sûr la volonté de Dieu dans les circonstances qui sont les nôtres et pas facile à appréhender et à comprendre. Et pourtant, ce texte nous donne là aussi une espérance. Ce texte nous dit que l'obéissance, c'est la foi en action. Dieu nous commande de placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres. Et cette foi conduit à cette proximité avec Dieu, une proximité telle que ce texte nous dit que son esprit nous est donné. Et ça boucle un petit peu la boucle. Donner et aimer, c'est difficile. Mais son esprit nous guide et nous montre comment ouvrir notre cœur, comment donner de la bonne façon, comment donner à la bonne personne. quelque chose qui nous est difficile à accomplir et à comprendre, eh bien, son esprit est là pour nous conduire sur ce chemin. C'est difficile de savoir comment prier, comment demander. Eh bien, là encore, parce que nous choisissons d'accomplir sa volonté, parce que nous choisissons de mettre en œuvre la foi qu'il nous a donnée, eh bien, son esprit nous aussi nous montre comment prier. Et je vais m'arrêter là en espérant que ce texte vous ait dérangé, vous ait fait vous poser des questions sur ce que vous donnez, sur l'état de votre cœur, et que ce texte vous ait aussi encouragé parce que l'Esprit de Dieu va vous conduire pour accomplir sa volonté. Merci.